chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes me rappellent à ton souvenir.
Écoutez la planète chanter. Atomic Jingles. Le kit d'habillage pré-produit pour votre radio. Près de 80 effets sound design pour illustrer vos voix. Radio pour vos promos et speak antennes. 25 modules pré-produits pour des identifiants dynamiques. Plus de musique. Plus de... Insérez juste le nom de votre radio pour obtenir ceci. Plus de musique. Plus de hits. 102.5. Des bases rythmées.
Salut, c'est Bob Sinclair.
C'est Jennifer Lopez.
Et pour chaque mix, vous obtenez la version sans radio ou sans studio. La version bête seule, la version voix seule.
Plus de musique.
Non-stop. Salut, c'est Bob Sinclair.
C'est Jennifer Lopez.
Et les éléments qui composent le mix.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale. Et oui, madame, monsieur, bienvenue à cette émission spéciale aujourd'hui, en ce dimanche 17 juillet 2016. L'ingénieur du son DJ Devera et au microphone Eric Kader à votre service jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Hommage aux victimes de l'attentat de Nice. La radio de l'Université de Toronto, CUTFM, une fois de plus, rend hommage à ces victimes de cet énième attentat au travers d'une émission spéciale en partenariat avec Radio France Internationale. Et pour nous aider à réaliser cette émission, nous recevrons des invités au Canada, à Toronto, à l'étranger, pour revivre ce moment bouleversant qui a touché la ville de Nice en France jeudi dernier, 14 juillet, fête de la Bastille. Et si vous souhaitez participer en direct à notre émission ou exprimer votre solidarité au peuple français, aux victimes, vous pouvez nous contacter en direct à 946 7000, 416 946 7000, ou encore à l'adresse suivante pot.pourri@simpatico.ca. Et oui, au programme aujourd'hui, la fête nationale qui vire au deuil national, réaction des conseillers consulaires français à Toronto et à Montréal et à Paris. Et ce que l'on sait après l'attentat qui a coûté la vie à 84 personnes, des témoignages de l'horreur de l'attaque de Nice, la culture est en deuil et les artistes réagissent. Quelles leçons les services de renseignement peuvent-ils en tirer? Que retenir du parcours de Mohamed Boulel, auteur de cette attaque? Que penser de la revendication tardive de l'État islamique près de 36 heures après les faits? Et pourquoi la France analyse avec les invités de Radio France Internationale? Les internautes se mobilisent et certains médias, dérapage de certains médias, c'est dommage. Et devons-nous modifier notre mode de vie pour nous aider à mieux comprendre ces événements? Et ceux et celles qui vont témoigner tout au long de cette émission, nous sommes très heureux de recevoir les invités suivants. Madame Francine Watkins, qui est conseillère consulaire pour l'Ontario et le Manitoba, et vice-présidente du conseil consulaire de la circonscription de Toronto. Michael Pilater, qui est conseiller consulaire de la circonscription de Montréal et Moncton-Halifax, et conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger représentant les Français établis au Canada. Il est actuellement à Paris. Yann Chantrel, qui est conseiller consulaire de Montréal, Moncton-Halifax, et conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger pour le Canada. Pierre Conessa, spécialiste des questions stratégiques internationales au micro de RFI. Fougère Adolphe, qui est le président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto. L'équipe de CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto, présente ses condoléances à toutes les familles des victimes de cet acte ignoble. Hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Un camion a foncé jeudi 14 juillet, au soir, dans la foule sur la promenade des Anglais à Nice, pendant le feu d'artifice de la fête nationale, faisant au moins 84 morts, des dizaines de blessés, et laissant 18 personnes dans un état d'urgence absolue. Le président français François Hollande a parlé d'une attaque dont le caractère terroriste ne peut être nié. Les antennes de RFI étaient en édition spéciale dès 19h jeudi. Et au lendemain de l'attentat de Nice qui a fait au moins 84 morts, le président François Hollande s'est exprimé vendredi au palais préfectoral de cette ville du sud de la France, venu exprimer la solidarité et le soutien de l'exécutif. Le chef de l'État a insisté sur le fait que la France était toujours exposée à des actes terroristes. Il dit, je cite, « Nous sommes toujours devant la menace ». Cette attaque a suscité un mouvement de panique. Un journaliste du quotidien Nice Matin, qui était sur place, décrit une scène de panique au moment de l'incident quand un journaliste de l'AFP parle d'un chaos absolu. Des gens hurlaient. Nous avons vu des gens touchés et des débris voler partout. Un camion qui a failli à sa trajectoire ne pouvait être qu'un acte totalement délibéré. Trois jours après la course sanglante de Mohamed Boulel, l'auteur de cet attentat, l'État islamique a revendiqué l'attaque du 14 juillet à Nice. Le conducteur du camion semble s'être radicalisé très rapidement, a déclaré Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, évoquant un attentat d'un type nouveau. La promenade des Anglais, théâtre du drame, a rouvert petit à petit aux passants samedi dans une ville endeuillée où 131 personnes, dont 30 enfants, sont toujours hospitalisées à Nice. 26 sont en état de réanimation. La promenade ne sera totalement rouverte que lundi, après la minute de silence qui sera observée sur l'ensemble du territoire national à midi. Réaction et gestes de solidarité à travers la planète. Suite à cet attentat, le monde entier était en état de choc. Comment les Français doivent-ils réagir face à ce drame?
Alors le 14 juillet, je ne vous l'apprends pas, c'est le jour de la fête nationale française et c'est cette date symbolique qu'ont choisi les terroristes pour ce nouvel attentat. On commence avec une couverture choc et un titre choc. La une de la presse locale dit ce matin, carnage à Nice, avec en photo, si on peut avoir la photo, de nombreux corps alignés sur la promenade des Anglais et couverts de draps blancs. Et derrière...
On était dans un premier temps recouverts de nappes. Hein, les restaurants qui étaient le nom de la promenade des Anglais ont été mis à contribution.
Je pense que toute la ville de Nice a été mise à contribution et on va voir qu'il y a eu beaucoup de solidarité dans la ville. Donc j'aurais bien aimé vous montrer ces unes de presse si elles veulent bien apparaître. Donc,
ça va arriver.
Ça va arriver. Vous avez raison. Donc Nice a été mise à contribution. Voilà, carnage à Nice où on voit, on les voit peut-être pas forcément très bien, mais ces draps blancs, ce sont les corps alignés sur la promenade des Anglais. Et derrière, on voit le camion meurtrier qui a foncé sur la foule. Une autre, cette photoshop, on la retrouve aussi à la une de la Provence, Marseille, c'est toujours la presse locale, avec ce titre l'horreur. L'horreur, puisque de nouveau la France est frappée. L'horreur, c'est également le titre du Parisien, aujourd'hui en France, et du Figaro, avec cette fois un gros plan sur les forces de sécurité et le pare-brise du camion criblé de balles, puisque l'assaillant a été abattu par la police. Ouest Matin nous signale, lui, que la ville est considérée comme un foyer djihadiste depuis longtemps par la DGSI. Dès 2014, la Direction générale de sécurité intérieure révélait qu'un attentat visant le carnaval de Nice avait été déjoué, donc il y a 2 ans. Et en mai dernier, c'est le principal recruteur de djihadistes français, Omar Diaby, lui-même originaire de Nice, qui refaisait parler de lui en apportant tout son soutien aux attentats du 13 novembre dernier, parce que d'après lui, le groupe État islamique ne faisait que répliquer aux frappes françaises, évidemment en Syrie, soi-disant sur des femmes et des enfants et non pas des djihadistes. Enfin, on termine ce chapitre français avec ce dessin de Plantu et cette colombe. Le dessin de Plantu, voilà, est ici. Cette colombe qui pleure sur la France barrée d'un brassard noir où il est inscrit Nice et les Alpes-Maritimes, je ne sais pas si vous voyez les Alpes-Maritimes dans le coin tout en bas, ensanglantées.
Et que nous dit la presse internationale ce matin ?
Alors aux États-Unis, Nice fait aussi la une de plusieurs quotidiens comme le Chicago Tribune avec ce titre « Nuit de terreur ». La presse britannique elle aussi parle de Nice. Elle se concentrait sur les premiers pas du nouveau gouvernement de Theresa May, mais elle a changé tous ses titres, elle a changé toute son actualité à cause de l'attentat. Alors le Mirror parle de nouvel outrage en France. Le Times, lui, parle du massacre du jour de la prise de la Bastille. Voilà, vous voyez, le Bastille Day Massacre. Et enfin, le Télégraphe, le Daily Telegraph, annonce que la terreur frappe la Riviera française. Et Armel parlait tout à l'heure de vacances. Et la Riviera française, c'est la Côte d'Azur, le lieu touristique par excellence. Alors, est-ce que les gens vont continuer à y aller? Est-ce que les gens vont continuer à y prendre de la joie et du plaisir? Et quand je parle de gens, je parle aussi bien de la population française que des touristes russes, italiens, anglais, qui viennent, enfin tous ces gens qui viennent du monde entier. Telle est la question.
Et sur les réseaux sociaux?
Alors, sur les réseaux sociaux, on trouve évidemment beaucoup de réactions, non seulement du peuple français, mais aussi de personnalités politiques. Il y a Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, qui parle de barbarie. Il y a Nicolas Sarkozy qui parle de son émotion profonde et de sa tristesse infinie face à l'attaque de Nice. Anne Hidalgo, la maire de Paris, est évidemment solidaire avec la ville de Nice après les attentats qui ont frappé la capitale en 2015. On trouve aussi ce dessin que j'ai trouvé remarquable sur le site d'information B3.0. On y voit cette grande roue noire djihadiste qui écrase le peuple français et poursuit Marianne, le symbole de la République. On note aussi, toujours sur les réseaux sociaux, beaucoup de témoignages et de réactions. J'ai suivi là toute la nuit, toute cette matinée, Grégory Leclerc, qui est journaliste, reporter pour Nice Matin. Et donc, il nous envoie des photos.
Des instantanés des, voilà, de la promenade des Anglais.
Absolument. Donc, cette nuit, il nous parlait de gens en détresse et en larmes qui se consolaient les uns les autres en attendant des taxis. Et puis, ce matin, il nous montre les rues désertes de Nice, la promenade des Anglais, qui est pleine d'éclats de verre et de lampadaires couchés à cause du choc provoqué par le camion. Les réseaux sociaux sont aussi le lieu de la solidarité. Avec le hashtag Porte ouverte Nice, les habitants, les Niçois qui habitaient près des lieux du drame ont ouvert leurs portes aux rescapés, aux survivants, à ceux qui étaient tout simplement paniqués ou qui cherchaient un refuge. Autre lien utile, c'est Recherche Nice pour retrouver ses proches ou au moins avoir quelques nouvelles en espérant qu'ils sont vivants. Il y a tout de même un signe d'espoir dans tout ce malheur, c'est qu'un bébé a été retrouvé, un bébé de 8 mois a été retrouvé grâce au site Facebook.
Émission spéciale, hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Et oui, il y a plusieurs des réactions de beaucoup d'artistes. Il y a des nouvelles chansons qui spontanément sont apparues sur YouTube ou d'autres réseaux sociaux. Et tout au long de cette émission, nous allons vous partager ces artistes d'un jour, peut-être pour toujours, qui ont inventé, composé des chansons, des cris de cœur. Et nous vous remercions pour vos messages, ça commence à rentrer. Je vais vous les lire tout au long de l'émission. Vous pouvez aussi nous appeler au 416-946-7000 ou encore hashtag Popourichou en un seul mot. Ou vous pouvez nous envoyer un message via facebook.com/Popourichou.
Cimetière ont pris le volant pour assassiner nos frères qui étaient tous innocents aux armes citoyens du monde entier épuisés, déchirés par toutes ces vies lâchement ôtées. Nous pleurons nos frères. Vous voulez nous intimider, mais vous n'aurez pas notre liberté. Une nouvelle fois, nous pleurons nos frères. Nous avons un genou à terre, mais nous vivrons fièrement pour eux. Istanbul, Orlando, Palestine et Charlie. Il y a du sang sur les drapeaux, le monde s'évanouit, les meurtriers sont de sortie, de Bruxelles à Paris, les démons ont quitté l'enfer, cette fois pour Nice et tuer nos frères. On meurt pour un dessin, pour une tasse de café, pour un concert de rock, et maintenant pour une fête nationale. On meurt pour exister, et eux ils vivent pour tuer. barbarie immonde. Attention au racisme, il ne faut pas faire d'amalgame entre le terrorisme et la religion musulmane. Et pour ceux qui vont croire que le FN est la solution, détrompez-vous ces gens-là, mon ni cerveau ni religion. Les marchands de cimetières ne sont que des machines de guerre. Une nouvelle fois nous pleurons nos frères. Vous voulez nous intimider, mais vous n'aurez pas notre liberté. Une nouvelle fois nous pleurons nos frères. Nous avons un genou à terre, mais nous vivrons fièrement pour eux. Une nouvelle fois nous pleurons nos frères. C'est eux qui meurent sous les bombes ou sous ces putains de camions. Une nouvelle fois nous pleurons nos frères. Où qu'ils soient dans le monde, victimes de cette barbarie immonde.
Émission spéciale à CUT 89,5 FM. À notre façon, nous rendons hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Une façon pour nous d'être solidaires avec la France, avec les familles endeuillées. Il y a eu plusieurs manifestations un peu partout en Amérique du Nord, entre autres à Montréal, à Ottawa et même à Toronto. Il y avait une vigile. On en parlera tout à l'heure avec notre invité, Madame Francine Watkins, et je pense que le consul général de France de Toronto, Marc Trouet, était aussi au rendez-vous. Et nous écoutons, alors vous savez, il y a eu des condamnations un peu partout, des chefs d'État à travers le monde, je vous les lirai peut-être avant la fin de l'émission. Les condamnations sont unanimes, les dirigeants et responsables politiques à travers le monde sont indignés suite aux attentats de Nice. Et nous écoutons une brève allocution du président français François Hollande.
Cette attaque, dont le caractère terroriste ne peut être nié, est encore une fois d'une violence absolue. Et il est clair que nous devons tout faire pour que nous puissions lutter contre le fléau du terrorisme. Le conducteur a été abattu. Nous ignorons à cet instant aussi s'il avait des complices. Mais nous faisons en sorte que son identification, qui va être vérifiée, puisse nous mettre sur ces pistes éventuelles.
Et oui, 2 jours après la tuerie de Nice, l'organisation État islamique a revendiqué l'attaque au camion qui a fait 84 morts à Nice, dont 10 enfants, jeudi 14 juillet. La revendication émise via l'agence Nawag présente Mohamed Boulel comme un soldat de l'État islamique qui a agi en réponse aux appels lancés pour répondre ou pour prendre pour cible les ressortissants des pays de la coalition qui combat Daesh. Ce Tunisien de 31 ans semblait jusqu'alors avoir l'avantage un profil de déséquilibré. Inconnu des services de renseignement, il n'avait pas de lien avéré avec l'islamisme radical. Et selon Bernard Cazeneuve, nous sommes face à un attentat de type nouveau. Nouveau d'abord par le profil de son auteur. Il semble qu'il se soit radicalisé très rapidement. En tout cas, ce sont les premiers éléments qui apparaissent à travers les témoignages de son entourage. Sept personnes, dont l'épouse de Mohamed Boulel, sont toujours en garde à vue. Une source policière citée par l'agence France Presse a affirmé que certaines auditions faisaient en effet état d'un basculement récent vers l'islam radical. L'attentat de Nice est également nouveau de par son mode opératoire. Contrairement aux attentats du 11 janvier, du 13 novembre de l'année dernière, aucune arme lourde et aucun explosif n'ont été utilisés cette fois. Sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
The sound of your city, CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo ? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
Cette semaine, dans Francophonie, Marion Urban.
Deux fêtes pour une seule émission, une soirée French Tuesdays pour la fête de la musique. C'était le 21 juin dernier. Nous avons profité de la fête de la musique pour nous initier au mardi français de New York.
Francophonie, le magazine de l'espace francophone, présenté par Marion Urban.
Émission hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Voici une autre chanson composée par une inconnue. Il y a plusieurs inconnus comme ça qui ont de tout cœur inventé, composé des chansons, des vrais cris du cœur. En voici une autre.
Où sont les vrais? Je veux savoir ce qu'il faut faire pour qu'on ait de la vérité. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas vu ce qui s'est passé? Désolé, moi je dormais, je n'ai pas pu rêver. Des familles en perte de sommeil, terroriste a frappé. Promène à des Anglais, des corps inanimés. Qu'est-ce que l'on peut faire quand même le corps devient une âme? Qu'a-t-il fait pour perdre son âme? Moi je n'y arrive plus, je n'arrive plus à pleurer. Est-il encore bien fou? On me dit, qu'on peut vivre, qu'on peut vivre. Même au pire, même au pire, on est perdu dans l'horizon, la haine s'est remplie perdue.
Émission spéciale en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Collaboration spéciale de plusieurs partenaires ici à l'étranger, en partenariat avec Radio France Internationale. Les marchands de cimetières ont pris le volant pour assassiner nos frères, nos sœurs, qui étaient tous, toutes innocents. Aux armes, citoyens, citoyens du monde entier, épuisés, déchirés, pour toutes ces vies lâchement ôtées. Istanbul, Orlando, Palestine et Charlie, il y a du sang sur les drapeaux. Le monde s'évanouit, les meurtriers sont de sortie de Bruxelles à Paris. Les démons ont quitté l'enfer, cette fois pour Nice, et tué nos frères, nos sœurs. Et oui, il y avait une vigile ici à Toronto vendredi soir en présence du consul général de France à Toronto, mais aussi plusieurs représentants des Français. Et le consul général de France, Marc Trouet, était sur place. Et je pense que nous avons Madame Francine Watkins, qui est conseillère consulaire pour l'Ontario et le Manitoba et vice-présidente du conseil consulaire de la circonscription de Toronto, qui était aussi sur place. Et elle est avec nous en direct. Bonjour, Francine.
Bonjour, Eric.
Alors, on s'est parlé il n'y a pas très longtemps.
Oui, oui. Oui, mais c'était dans des circonstances différentes. Et là, une semaine, et le monde a de nouveau basculé.
Oui. Où étiez-vous quand vous avez appris la nouvelle ?
Écoutez, j'étais avec mes petites filles, et c'est une amie qui m'a téléphoné et qui m'a appris qu'il y avait eu un autre attentat à Nice.
Tout le monde était surpris, hein ? On s'y attendait pas du tout, surtout après la Coupe d'Euro. Il y a eu quand même beaucoup de matchs, beaucoup de gens à travers la France. Et on s'y attendait, je pense. Il y avait quand même une certaine frayeur, il me semble. Or, il ne s'est rien passé. Et là, peut-être, les gens se sont dit, bon, on est en sécurité, quoi.
Mais je crois, de toute façon, qu'il est impossible, finalement, d'empêcher les gens de vivre. À ce moment-là, le 14 juillet, le Bastille Day, c'est quand même la fête nationale. C'est comme si on demandait aux Canadiens de ne pas fêter le 1er juillet, de ne pas sortir. Il y aura d'autres occasions. Il y a des festivals partout en France et dans le monde entier. Il y en a ici. Est-ce que ça veut dire qu'il faut annuler Caribana? Est-ce qu'on doit annuler tout ce qui fait partie de la culture d'un pays? Et une fête nationale, c'est quand même un symbole très fort. Donc les gens ont voulu sortir, ils ont voulu justement montrer que la vie reprenait le dessus et qu'on ne peut pas nous empêcher de vivre.
Alors il y a eu, c'est sûr, cet attentat en novembre de l'année dernière à Paris. Et là, c'est quand même frappant parce qu'on frappe au cœur même de la culture d'une ville balnéaire très, très réputée et connue, reconnue à travers le monde. Il y a beaucoup d'étrangers qui y passent, hein, n'est-ce pas? Moi-même, j'y suis allé plusieurs reprises. Et comment expliquer? Est-ce qu'il y avait vraiment... C'était prémédité tout ça parce que là, on découvre de plus en plus que l'auteur était bien préparé, quoi.
Oui, je crois qu'il était préparé, mais on attend encore, finalement. Bon, moi, j'ai quand même un devoir de réserve. J'aimerais connaître, finalement, toutes les circonstances, parce qu'il y a quand même des choses assez contradictoires. D'un certain côté, il était supposé avoir été radicalisé, donc s'être converti très rapidement. Et puis, il avait aussi des problèmes conjugaux. Et puis, on nous dit aussi qu'il était instable, qu'il avait des problèmes de santé mentale. Donc, en fait, je trouve qu'il faut attendre un petit peu et prendre du recul et laisser, finalement, les autorités faire leur enquête. Je crois que le consul de France a très bien évoqué un petit peu les trois attentats, en disant que celui de Charlie Hebdo, c'était une attaque contre la liberté d'expression, celui du Bataclan, c'était la culture, et là, c'est vraiment notre liberté, c'est vraiment la France, c'est la République. Attaquer, ce sont des symboles chaque fois très forts.
Comment s'est passée la vigile justement vendredi soir à Toronto ?
Écoutez, je crois que les gens étaient accablés, nous sommes tous meurtris, je pense que les citoyens du monde et l'humanité est meurtrie. Chaque fois qu'un événement pareil se produit, c'était vraiment dans le recueillement. Les organisateurs avaient amené des ballons qui représentaient chaque victime. Et il y a eu à la fin, simplement dans le silence, un lâcher de ballon. Et il y a eu aussi une minute de silence. Donc beaucoup de retenue, beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur.
Il y a une grande solidarité, je dois dire, chez les politiciens, mais aussi le monde artistique. On le voit bien, même aux États-Unis, il y a eu beaucoup de réactions. Beaucoup d'artistes, d'ailleurs, on va partager des thèmes assez émouvants qu'ont partagé les artistes sur les réseaux sociaux. Je trouve ça formidable de voir cette solidarité avec la France. Et j'espère que ça cesse, parce que là, c'est trop. C'est ce que les gens disent, hein.
Oui, je pense que c'est vraiment une attaque contre l'humanité. En général, c'est pour ça que les gens, finalement, se retrouvent. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est la France, qu'il y a eu d'autres pays qui ont été victimes de ces tristes incidents. Malheureusement, on espère que ça ne se produira pas, mais on n'est pas tellement optimiste sur la fin de ce genre d'incident, parce que finalement le conflit semble s'être déplacé. C'est beaucoup plus médiatiquement exploitable de faire cela dans des pays occidentaux.
Oui.
Je crois que c'est ça aussi, et je crois qu'il y a aussi une exploitation médiatique de ce phénomène. Ces gens qui sont finalement des minables.
Oui.
Même dire les choses telles qu'elles sont, des gens qui n'ont rien à voir avec un être humain, ces gens-là, tout à coup, ont la vedette. Ils ont droit à des heures et des heures de couverture médiatique qui passe en boucle. Donc je crois aussi qu'il va falloir que les médias se penchent un petit peu sur ce phénomène et finalement pensent plus aux victimes. À l'humanité en général. Donc,
il y a eu des dérapages, hein, il faut bien dire, et France 2, entre autres, s'en est excusé. Et je trouve ça ignoble de voir que les médias filment et passent ces corps, ces cadavres en direct. Je trouve que ça, c'est vraiment un faux pas et des dérapages malheureux.
Ben oui, bien sûr, parce que finalement, il y a une surenchère.
Voilà.
Les gens espèrent faire plus. Je vais vous dire, il y a eu des dérapages politiques aussi absolument ignobles, parce qu'on n'est pas très loin en France non plus des élections en 2017, et on se rend compte que les gens font de la récupération et osent dire des choses qui sont finalement absolument troublantes et révoltantes.
Oui.
Voilà.
Avez-vous reçu des réactions de la part de vos concitoyens, de la part des Français qui vivent ici, dans votre circonscription ou à Toronto ?
Oui, et je dois dire que bon, on est tous, comme je vous l'ai dit, on est tous absolument consternés et vraiment bouleversés par tout ce qui s'est passé. Hier, j'ai fait une soirée porte ouverte chez moi, justement pour que les gens puissent se retrouver, ceux qui voulaient parler, ceux qui voulaient aussi en même temps se recueillir et puis célébrer quand même la vie, notre culture aussi, en même temps, en disant que nous ne baisserons pas les bras, que ces attaques finalement sont superflues, parce que la culture française, la culture de l'humanité continuera à vivre.
Est-ce qu'il y a... quelqu'un m'a appelé hier pour dire, est-ce qu'il faut changer notre mode de vie ? Est-ce qu'il faut faire attention quand on voyage ou ne plus voyager ? Est-ce qu'il y a des consignes que nous donne le gouvernement français en ce moment, ou le consulat général de France à Toronto ?
Non, je pense que de consignes, nous n'en avons pas reçu. Je sais qu'il y a eu des réunions sur la sécurité au consulat, justement, pour voir si, par exemple, au Canada, la communauté francophone ou la communauté française était une cible. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Mais je ne pense pas. Je pense que, justement, si nous changeons notre mode de vie, c'est ça qu'ils veulent atteindre. C'est ce mode de vie-là, c'est cette égalité aussi, c'est le statut de la femme, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont liées à cela. Donc non, je crois que finalement, ce qui nous rend humains, ce qui nous rend meilleurs, ce qui nous rend tous frères et sœurs, ça ne doit pas disparaître. Et notre culture doit survivre, et nos principes démocratiques aussi. Donc en fait, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent s'attaquer à ce modèle qui n'est pas conforme à leur philosophie. Mais ça serait aussi une victoire pour eux.
Moi, je trouve que là, on est vraiment en guerre, il faut bien admettre. Et c'est une nouvelle forme de guerre. Je pense que ce sera très difficile pour n'importe quel gouvernement de gauche, de droite, centre ou quoi à prévenir ce genre d'attaque, n'est-ce pas ?
Mais absolument, vous ne pouvez pas, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas à ce moment-là. Ça s'est déjà passé quand on regarde finalement les attaques, pas seulement dans le monde occidental, mais aussi quand on regarde ces attaques au Moyen-Orient, c'est quelquefois des mariages, des choses, des fêtes familiales. Ce sont dans les mosquées, dans les lieux de culte. Ce sont, franchement, quand on regarde un petit peu le sort des Yazidis, on se dit que finalement, tout rassemblement peut donner lieu à des dérives, à des dérapages, aux actes d'un fou ou d'un fou de Dieu. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque être humain. Je crois que la population aussi, avec justement un petit peu cet état de guerre, et le gouvernement voulait supprimer ces mesures. Le président de la République l'avait annoncé, et quelques heures plus tard, on a continué le dispositif. La population, d'un côté, veut être protégée, mais elle veut aussi avoir sa liberté. Donc, est-ce qu'on va... les gens sont contre les caméras de surveillance, ils sont contre les écoutes, ils sont contre ceci et cela, mais ils veulent une sécurité à 100%. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a on va devoir faire des sacrifices, c'est certain, mais je crois qu'aucun gouvernement de nos jours, nulle part de par le monde, n'est capable d'arrêter ces actes terroristes. On regarde les États-Unis avec le 11 septembre.
Oui.
Voilà.
Il faudrait peut-être trouver un moyen pour que les gens... Parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui est lié à ces auteurs d'attentats. Et moi, je me demande s'il ne faut pas trouver un moyen pour aider ces gens qui fréquentent ces présumés auteurs à délater, finalement, à divulguer l'information au gouvernement ou aux agences de sécurité.
Vous savez, il y a tellement... En fait, ce sont... Finalement... Quand on regarde la population mondiale, c'est une poignée de personnes. Mais ces gens échappent finalement au contrôle, et finalement ils ont un tel manque de respect envers la vie humaine, envers nos valeurs, qu'en fait c'est très difficile de les contrer. Finalement, les fanatiques, les gens qui sont dans des sectes, dans Dieu sait quoi, dans des mouvances quelconques, sont tellement convaincus du bien fondé de leur mission. Et puis, vous savez, il y a autre chose. Comment voulez-vous quelquefois combattre des gens qui pensent que finalement l'au-delà vaut mieux que la vie sur Terre ? Ça, c'est très...
C'est une récompense pour eux.
C'est une récompense. Voilà. Donc, voilà. En fait, je lisais quelque chose. Il disait vivre, c'est 20% et l'au-delà, c'est 80%. Donc, ils aspirent à cette mort, mais bon, ils peuvent se suicider, c'est leur problème. Mais finalement, c'est emporter avec eux tous ces innocents. C'est ça, c'est détruire des vies, détruire des familles, détruire des communautés, et c'est ça qu'ils veulent.
Alors, nous avons reçu plusieurs réactions et plusieurs invités sont dans cette émission pour justement démontrer leur solidarité avec les victimes, le peuple français, les Français qui vivent ici ou à l'étranger. Et je trouve que nous vivons des moments tragiques. Encore une fois, je ne sais pas combien d'émissions que j'ai déjà réalisées, préparées. Voilà. J'espère que ça ne se répète pas trop souvent parce qu'on en a marre. Alors, nos condoléances à vous et au peuple français.
Merci, Eric.
Et nous sommes toujours là. Hein. Vous savez, le micro est à votre disposition.
Je sais, je vous remercie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous penserons simplement aux familles de Nice et puis aussi aux gens, à ces gens qui sont entre la vie et la mort, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de blessés et tous ces gens qui ont été traumatisés par le spectacle auquel ils ont assisté. Et on espère effectivement que ce sera la dernière fois et que nous n'aurons plus à nous réunir à Nathan Phillips Square en solidarité, pas seulement avec la France, mais avec... d'autres pays du monde entier. Voilà.
Madame Francine Watkins, qui est conseillère consulaire pour l'Ontario et le Manitoba et vice-présidente du conseil consulaire de la circonscription de Toronto, je vous remercie. Bon dimanche et bon courage.
À vous aussi, merci.
Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir est ma mémoire et ces visages d'enfants. Et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Et bien plus ça tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Oh si je pouvais. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Une faveur, comme une fleur, un souffle. Une erreur, un peu de nous, un rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire, aller face à l'éternité. Ça va même pas se voir, ça restera entre nous. Oh, juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Oh, je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre, encore hier. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report. À peine encore, je sais, il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps, les horloges se reposent et caresser juste un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de tout.
voilà une très belle chanson composée dans ces circonstances pénibles d'un autre inconnu. Merci beaucoup à Francine Watkins. Beaucoup de réactions de cet entretien. Nous avons aussi reçu des messages venant de Montréal. Il y a monsieur Yann Chantrel qui sera à l'émission juste vers 12h30 aujourd'hui. Un message touchant de Marceline, la fondatrice de Ciné Franco, qui nous écoute et qui trouve tout ça absurde, ce massacre barbare. Et elle est abasourdie. La peine, la colère, l'outrage me hante devant cet acte terrifiant. Où va-t-on ? À quoi ce massacre sert ? Alors, beaucoup de messages, beaucoup de réactions. Et à cause justement de vos réactions, mais aussi plusieurs invités qui veulent passer en onde, alors on va décaler un peu l'émission. On devait recevoir monsieur Fougère Adolphe, mais on vous recevra après 12h30 et on s'en excuse parce que nous avons des appels de France. Nous recevrons Michael Pilater, qui est conseiller consulaire de la circonscription de Montréal et Moncton-Halifax et conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, représentant les Français établis au Canada. Et nous recevrons aussi monsieur Yann Chantrel, qui est conseiller consulaire de Montréal, Moncton, Halifax et conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger pour le Canada dans la deuxième heure. Et Pierre Conessa, qui est spécialiste des questions stratégiques internationales, qui était au micro de Radio France Internationale, notre radio partenaire. Nous faisons une petite pause et le point de l'actualité justement avec Radio France Internationale, revenez-nous juste après.
Sur quelle planète suis-je tombée ?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Jumbo, did you know Caribouni has a new time slot? Join us Sundays from 3 to 5 p.m. as we journey around the African continent and beyond, featuring the best in African music, artists, interviews, and news. Tune in to Caribouni every Sunday from 3 to 5 p.m. on CIUT 89.5 FM. Thank you very much. Apoyamatek.
Culture lives at Harborfront Center, and this summer features a fresh mix of special events. Mexico's top lucha libre talent face off inside the ring alongside and against some of Toronto's homegrown high-flying wrestlers at Ritmo y Color, the streets of Mexico on July 17th. Bust a gut laughing at Shield to Shore with Atlantic Canada's funniest comedians, featuring the award-winning and outrageous Nikki Payne and an all-star cast of Canada's finest on July 22nd. And turn it up at the city's hottest roots reggae afterparting during Island Soul, featuring one of the central figures in the new reggae revival, DJ Yardcore, live from Jamaica on July 30th. CIUT is a proud sponsor of the Harborfront Center Summer Ticket Program. General and VIP tickets at harborfrontcenter.com/boxoffice.
Picture a perfect Toronto summer night. Drinks with friends on a rooftop patio, a delicious dinner, then off dancing to a great DJ. Add in a breathtaking sunset over the city, too. What could possibly make it better? It's all on a boat. On Friday, July 22nd, for only $65, dance, wine, and dine your way around Toronto Harbor on the True North 8 boat cruise in support of Attawapiskat. Door prizes, silent auction, live music, delicious buffet, a DJ dance party, and a rooftop patio and dance floor. Boarding starts at 6:30 p.m. from Pier 6, just south of Queens Key West in York. Spend a perfect summer night in Toronto. Tickets are only $65 and going fast. Go to pickatick.com/TrueNorthBoatCruise and get yours today. See you there.
Right here, right now. Every day, CIUT 89.5, the sound of your city, Toronto.
Française, français.
Moi, la poésie, je ne sais pas ce que c'est. Atmosphère.
Ta présence me trouve, ton odeur me trouve.
But! But à l'équipe de France sur le corner de Mario Petit.
Garçon, remettez-nous ça.
Attends-nous d'entrer en caisse d'un côté du droit.
C'est une peur. Il tombe de nouveau les bras en croix. Cette fois, j'ai l'impression qu'il ne veut pas se relever. Peut-être.
La belle France. Claire Vumain.
Marie Dumière.
Bonjour à tous. Retour au calme relatif en Turquie. Tout est sous contrôle, assure le Premier ministre Binali Yildirim, après la tentative de coup d'État vendredi soir qui a fait au moins 265 morts dans des affrontements à Istanbul et Ankara. Une tentative de putsch menée par une minorité au sein de l'armée, assure le président. Il s'est exprimé face à une foule de partisans samedi soir à Istanbul. Des milliers d'entre eux défilaient encore dans les rues. À l'international, oublié les critiques de l'autoritarisme du président Erdogan, on salue de manière unanime le retour au pouvoir des civils. La Russie insiste sur les risques pour la stabilité régionale et internationale de cette tentative de putsch. Barack Obama a appelé à soutenir le gouvernement turc démocratiquement élu, tout comme l'Union européenne, alors que la reprise en main par Erdogan a commencé. 3000 soldats, y compris des militaires de haut rang, ont déjà été arrêtés, ce qui laisse présager une purge au sein de l'armée. Ces lâches se verront infliger la peine qu'ils méritent, déclarent les autorités. Ménage également à la justice. 2500 juges vont être démis de leurs fonctions. Un juge de la Cour constitutionnelle a été arrêté. Une radicalisation probablement très rapide et récente, selon le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve. Le profil de Mohamed Laouej Bouhlel, le chauffeur livreur tunisien de 31 ans qui a tué 84 personnes à Nice jeudi soir, se précise. Un homme décrit comme dépressif, instable et non pratiquant, selon ses proches et ses voisins, alors que l'attentat a finalement été revendiqué par l'organisation État islamique. Un attentat de type nouveau, selon Bernard Cazeneuve, qui montre l'extrême difficulté de la lutte antiterroriste. Bernard Cazeneuve qui lance un appel à tous les Français qui le souhaitent à rejoindre la réserve opérationnelle pour soutenir les forces de l'ordre. Le Premier ministre Manuel Valls, lui, parle de changement d'époque. Le terrorisme fait partie de notre quotidien pour longtemps. C'est ce qu'il déclare dans un entretien au journal du dimanche. Il s'en prend aussi à l'opposition qui continue à mettre en cause le gouvernement et aux politiques irresponsables qui disent que cet attentat était évitable. À Nice, la promenade des Anglais a partiellement rouvert. Samedi, de nombreux passants sont venus se recueillir sur les lieux et déposer des fleurs et des mots en hommage pour rendre hommage aux victimes. C'est la fin de ce flash. Il est 2h33 à Paris. Merci d'écouter RFI.
RFI, la radio mondiale. Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Qu'avons-nous vu de nos deux vies, si ce n'est nos ans qui s'en vont?
Toujours en vain, ma vie qui va que pour du vent.
On ne se voit plus que pour vous, cessons de vivre des années vaines et des jours vides. Qu'avons-nous vu sinon les vagues, le vent va vite et l'on s'en va?
Qu'avons-nous vu sinon les vagues, le vent va vite et l'on s'en va?
Le vent va vite et la vie va vite, la vie va vite et l'on s'en va. Le vent va vite et la vie va vite.
La vie va vite et l'on s'en va.
Qu'avons-nous vu de nos deux vies, si ce n'est nos ans qui s'en vont? Vous qui voulez de moi en vain, moi qui vous veux devenir vieux.
Voyons un peu la vie qui va, nous sommes villes. Buvons le vin, jouons le vice. Qu'avons-nous vu sinon les voiles, le vent va vite et l'on s'en va?
Qu'avons-nous vu sinon les voiles, le vent va vite et l'on s'en va?
Le vent va vite et la vie va vite.
La vie va vite et l'on s'en va.
Le vent va vite et la vie va vite.
La vie va vite et l'on s'en va. La vie va vite et l'on s'en va, la vie va vite. La vie va vite et l'on s'en va. La vie va vite et l'on s'en va, la vie va vite. La vie va vite et l'on s'en va. La vie va vite et l'on s'en va, la vie va vite. La vie va vite et l'on s'en va. La vie va vite et l'on s'en va, la vie va vite. La vie va vite et l'on s'en va.
Émission spéciale en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. En partenariat avec Radio France Internationale et plusieurs partenaires ici et à l'étranger. Pour nous aider à réaliser cette émission, nous recevons des invités aujourd'hui du Canada, des États-Unis, de la France, de Montréal, pour nous faire revivre cet attentat qui a touché la ville de Nice en France jeudi dernier, 14 juillet. Et notre prochain invité est Michael Pilater. Il est conseiller consulaire de la circonscription de Montréal et Moncton, Halifax, et conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, représentant les Français établis au Canada. Je pense qu'il est avec nous au bout du fil. Bonjour, monsieur Pilater.
Bonjour.
Comment allez-vous? On s'est parlé il n'y a pas tellement longtemps.
Oui, on s'est parlé la semaine dernière. C'était pour célébrer ou en tout cas annoncer les prochaines célébrations de la fête nationale qui malheureusement ont été un petit peu chamboulées avec ce qui s'est passé. Moi je me rappelle très bien ce qui s'est passé, c'était que j'étais avec des amis, j'ai reçu les alertes sur les téléphones intelligents, vous avez des alertes des journaux.
Alors faut rappeler aux gens que vous êtes actuellement à Paris.
Voilà, exactement, je suis actuellement à Paris, donc j'ai reçu l'alerte sur mon téléphone. Et puis tout de suite, c'est les chaînes d'infos, c'est un cercle vicieux parce qu'on est dedans. Et puis tristement, on essaie d'apprendre davantage d'informations et puis on a les news qui tombent, le nombre de victimes. Et je me rappelais à Montréal, pour une fois que j'y étais pas, la célébration du 14 juillet a commencé au moment où il y a eu les alertes sur les événements de Nice.
Et donc, les gens étaient en panique?
Il n'y avait pas vraiment de panique, c'est pas le bon terme. Je pense qu'il y avait surtout une émotion, une tristesse très grande. Et on essaie, dans cet instant, on ne savait pas ce qui s'est passé. On savait qu'il y avait eu un événement. C'est les réseaux sociaux qui se sont emballés tout de suite. Moi, c'est comme ça que j'ai eu l'information. Mais il n'y avait pas eu état de panique. Il y avait surtout un état d'attente pour savoir ce qui s'est passé réellement. Et ensuite, la tristesse a remplacé l'attente. Et aujourd'hui, on est en deuil. 3 jours de deuil national ont été décrétés par l'exécutif national. Et effectivement, c'est le sentiment dans lequel on se trouve aujourd'hui.
Après l'attentat à Paris au mois de novembre de l'année dernière, quel état d'âme, justement, dans quel état d'âme sont les Français autour de vous, vos parents, famille, amis? Est-ce que les gens sont très inquiets de l'avenir?
Je pense que tout le monde est inquiet. Le Premier ministre disait que nous étions en guerre, c'est, je pense, une réalité. Simplement, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si tous les moyens sont mis sur la table pour que nous ne soyons pas en mesure de revivre ce qui s'est passé. Parce que vous vous rappeliez les attentats de Paris, au Bataclan, et dans les rues de Paris et au mois de novembre. Mais il y avait également Charlie Hebdo, l'hypercachère au mois de janvier 2015. Donc ça fait pas mal d'événements, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses à surmonter. Aujourd'hui, on se pose réellement les questions de savoir qu'est-ce qu'il doit être fait, qu'est-ce qui doit être fait pour que nous ne revivions plus ces événements-là. Et c'est des symboles qui ont été touchés. C'est la liberté d'expression en janvier, c'est la liberté de sortir, les jeunes qui ont été touchés, que ce soit dans un concert ou sur une table terrasse de café. Et aujourd'hui, c'est la fête nationale, le 14 juillet, qui est très combien symbolique pour la France et les Français. Donc véritablement, tous les symboles de la République ont été attaqués. Et on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que les moyens sont réellement mis en application pour éviter à l'avenir que ça se reproduise et qu'on tire les conclusions des événements, des trois événements qui ont endeuillé la France?
Vous savez, ce ne sont plus des soldats en uniforme. Là, on ne les voit pas venir. Ça peut être nos voisins, les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui vit sur le même palier de notre appartement. C'est une nouvelle forme de guerre, finalement. Difficile à contrer.
Il faudra attendre les conclusions de l'enquête par rapport à l'individu qui a endeuillé la ville de Nice et toutes les villes françaises. Mais on constate bien que ce sont des personnes qui se sont radicalisées. Donc c'est effectivement n'importe qui peut se radicaliser, mais je pense qu'au niveau des services de renseignement, il y a peut-être davantage de moyens à donner pour pouvoir prévenir la radicalisation de certains individus. Alors je ne suis pas spécialiste en défense nationale, mais on voit bien que ce sont des individus qui ont été radicalisés, et même radicalisés rapidement. Il faudra voir un petit peu comment cet individu qui est tunisien, qui vivait en France sous contrôle judiciaire, a pu se procurer ce camion et arriver sur la promenade des Anglais. Donc je pense qu'il faut laisser faire l'enquête, mais c'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est surtout des individus radicalisés et la radicalisation qui doit être prévenue.
Justement, la France vient de conclure une commission d'enquête sur le terrorisme et la classe politique et les forces de l'ordre semblent démunies, désarmées. Quelles doivent être les armes politiques pour lutter contre le terrorisme, d'après vous?
Je ne permettrai pas de donner des leçons à qui que ce soit en matière de terrorisme. Je ne suis pas assez expert dans la question. Je pense qu'aujourd'hui, les véritables moyens qui doivent être mis en application, c'est plus de sécurité sur le territoire. J'ai vu que l'opération Sentinelle allait être renforcée. La question de l'état d'urgence aujourd'hui, est-ce qu'elle se pose réellement? Parce qu'on était en plein état d'urgence et l'attentat a quand même pu se produire. Et puis, il y a aussi doter les services de renseignement de davantage de moyens, peut-être même aussi une coopération européenne, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des forces européennes travaillent entre elles. Ce n'est pas seulement la France qui doit lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, il touche tout le monde. Mmh. Il touche tous les pays européens à partir du moment où l'individu, et ça avait été le cas lors d'un précédent attentat en Europe, était rentré par un autre pays, notamment la Belgique, eh bien, on a compris que le problème du terrorisme était européen. Donc je pense qu'il devrait y avoir davantage de coopération au niveau européen. Donc davantage de moyens, davantage de coopération et davantage de prévention contre la radicalisation. Parce que là, aujourd'hui, on paye peut-être notre attentisme qui est peut-être à assez duré. Aujourd'hui, il faut se ressaisir. Et ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question droite-gauche, c'est vraiment une question nationale où peu importe les clivages, il faut se rassembler autour de cette question qui concerne tout le monde et qui peut toucher tout le monde, qui est le terrorisme.
Je rappelle que le président français François Hollande a annoncé une prolongation de l'état d'urgence. Êtes-vous pour?
Écoutez, moi je suis toujours pour tout ce qui va dans le bon sens. Simplement, le président de la République, la veille des attentats de Nice, a annoncé qu'il leverait l'état d'urgence parce qu'une loi terroriste pouvait prévenir le terrorisme. Aujourd'hui, on a bien compris que, un, la loi ne fonctionnait pas, ou en tout cas, le prémisse de la ne fonctionnait pas. Et on était en plein état d'urgence et l'attentat a eu lieu pendant l'état d'urgence. Alors si on extend le droit d'urgence de 3 mois supplémentaires, moi j'y suis pas défavorable. Simplement aujourd'hui, je suis pas sûr que tous les moyens soient donnés à nos forces de l'ordre, à nos forces de police et de renseignement pour prévenir contre le terrorisme. Et je pense que aujourd'hui, malheureusement, et le Premier ministre, pour une fois que je suis d'accord avec lui, avait dit des mots très justes, c'est qu'on doit s'attendre, et malheureusement c'est le cas, à d'autres formes et à d'autres attentats. Mais il va falloir réagir très vite parce que je pense que les Français, ils en ont peut-être assez d'aller descendre dans la rue, faire des minutes de silence jusqu'à la suivante.
Et justement, avec les présidentielles qui s'annoncent l'année prochaine, il y a des craintes de ce côté-là. Je rappelle aux gens que je suis avec M. Michael Pilater, qui est conseiller consulaire de la circonscription de Montréal et Moncton-Halifax et conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger représentant les Français établis au Canada. Une autre question pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus sans limiter la liberté des Français, d'après vous?
Moi, je pense que je pourrais pas davantage vous répondre que ce que je vous ai dit actuellement. Mmh. C'est davantage de moyens dans les forces de l'ordre, dans les forces militaires, accroître la coopération avec les États membres de l'Union européenne et peut-être même s'intéresser à ce qui se passe dans la région. Moi, je suis partisan d'une intervention militaire au sol contre l'État islamique. Aujourd'hui, on n'intervient pas militairement au sol parce que on a peur que cette guerre nous coûte trop cher. Est-ce qu'on n'a pas payé assez cher les morts qui ont eu lieu cette année et l'année passée ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut intervenir rapidement, efficacement, et ce n'est pas seulement la France qui doit intervenir, c'est l'ensemble des forces occidentales et orientales qui sont concernées par le terrorisme et qui veulent que cela cesse, qui doivent intervenir contre Daesh en Irak et en Syrie pour mettre fin à cette menace qui n'est pas seulement une menace aujourd'hui contre nos institutions, mais qui est une menace contre nos libertés. Et les libertés que vous mentionniez, elles sont pas loin d'être transgressées si on continue à laisser l'État islamique perdurer aujourd'hui dans notre monde actuel.
Pour les gens qui ne connaissent pas cette ville dont j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois, vous y êtes allé. Pouvez-vous nous décrire un peu pour nos auditeurs, les amis internautes, si vous aviez à décrire la ville de Nice pour nous?
Écoutez, Nice, moi j'y suis déjà allé en vacances plusieurs fois et je peux vous dire que c'est une ville magnifique et je suis profondément meurtri parce que je connais exactement l'endroit où a lieu l'attaque. Mmh. J'y suis allé pendant les vacances, c'est une promenade magnifique. Et comment peut-on imaginer que des familles, parce que c'est pas seulement des personnes que l'on connaît, hein, c'est monsieur et madame tout le monde, j'aurais pu y être, vous auriez pu y être, parce que regarder un feu d'artifice en famille sur la promenade des Anglais, c'est quelque chose que nous aurions tous pu faire si nous étions là-bas. Donc c'est une ville magnifique, et aujourd'hui, que voir cette ville meurtrie, cette ville endeuillée, c'est assez compliqué à accepter. On doit vivre avec ça, mais pour ceux qui ne connaissent pas Nice, il ne faut pas se laisser abattre, et il ne faut pas laisser les terroristes gagner. Et si certains souhaiteraient découvrir cette ville, je les invite vraiment à y aller pour montrer à tous ces Niçois que nous sommes avec eux et que le terrorisme ne nous arrêtera pas et qu'il faut continuer à vivre sans oublier, mais vivre avec et aller à Nice parce que c'est une ville magnifique.
Vous savez, nous sommes de tout cœur avec vous, avec le peuple français, avec la France, et ça se répète malheureusement un peu trop souvent pour nous. C'est très pénible pour moi de monter ces émissions parce que là, ça devient trop souvent là. Hein. Ça, c'est pénible. Je ne sais pas comment faire et quoi dire pour que ça s'arrête. Mais si vous aviez, je sais que vous êtes en France jusqu'au mois de septembre, mais est-ce que vous avez eu des réactions des Français qui résident à Montréal ou au Québec ou ailleurs?
Bien sûr,
au Canada,
il y
oui.
a eu une, il y a eu deux rassemblements qui sont organisés très naturellement à Québec devant le consulat général de Québec et devant le consulat général de France à Montréal où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées parce que ils avaient besoin de se retrouver, pas seulement descendre dans la rue, mais surtout le besoin de sentir que cette émotion, cette peine et cette tristesse puissent être partagées ensemble. Et lors de ces rassemblements, il y a eu des minutes de silence, il y a eu des Marseillaises, parce que la Marseillaise, elle n'a jamais été aussi élément rassembleur qu'elle ne l'a été avant. Je peux vous dire que c'est très important de sentir cette émotion-là. Et quand on sait qu'à Montréal, par exemple, il y a 120 000 Français, je peux vous dire que ça fait très chaud au cœur de voir autant de Français qui, parfois, quand on dit les Français à l'étranger, ils ne s'entraident pas. Ils sont chacun de leur côté. Il y a une diaspora de la communauté française au Canada et au Québec. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand toute la communauté française se rassemble au même moment, ça fait très chaud au cœur et c'est pour montrer que, même à l'étranger, nous n'oublions pas ce qui s'est passé, nous le portons avec nous, nous vivrons avec ça. Mais bon, écoutez, la tristesse aujourd'hui, elle est telle que c'est compliqué, encore une fois, vous le disiez, d'une troisième attaque contre notre communauté française, même la communauté internationale est profondément endeuillée, il faudra vivre avec ça. Mais ça fait toujours chaud au cœur de voir autant de Français, et même pas que Français, des Québécois et des Canadiens se rassembler à nos côtés. Et
justement, aujourd'hui, nous avons reçu pas seulement des réactions de la part des Français qui écoutent cette émission, mais aussi beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de Marocains, beaucoup de gens venant d'autres cultures. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est que vous n'êtes pas les seuls à être endeuillés. Nous sommes avec vous de tout cœur, et d'ailleurs, nous présentons nos condoléances à vous. Votre famille, mais aussi à toute votre équipe, que ce soit en France ou à Montréal. Et si jamais il y a d'autres nouvelles à communiquer à nos auditeurs, n'hésitez pas, nous sommes toujours là, le micro est toujours ouvert pour vous.
Bah, ok, mais en tout cas, je remercie vraiment votre initiative de pouvoir partager cette émotion avec nous et puis voir autant de personnes, qu'ils soient français ou pas, partager également ces valeurs et ces émotions-là, ça fait très chaud au cœur, je vous en remercie grandement.
Très bien, alors je vous remercie infiniment et bon courage. J'espère à un moment donné, on aura l'occasion de se rencontrer. Madame, monsieur, voilà, c'était monsieur Michael Pilater, qui est conseiller consulaire de la circonscription de Montréal et Moncton-Halifax et conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, représentant les Français établis au Canada. Je vous remercie. Bon courage, monsieur Pilater, et merci beaucoup d'avoir été là pour nous partager ce témoignage. Au revoir.
Au revoir. Bonne journée.
Il a foncé dans la foule. Ce camion nous fait un bloc sans pitié. Nous avions été frappés dans nos chairs, dans nos valeurs. Ce camion.
Émission spéciale à l'antenne de CUT 89,5 FM. CUT FM rend hommage aux victimes des attentats au travers d'une émission spéciale. Attentat perpétré justement par un fou. Eh oui, ça s'est passé à Nice le 14 juillet, fête nationale des Français. C'est la tonalité qu'entend donner Le Parisien dimanche avec une lumineuse photo de une prise sur la promenade des Anglais, pavoisée de deux drapeaux français flottant mollement sous un ardent soleil, mer tranquille en toile de fond. La vie plus forte que la peur, lance ce journal qui publie un cahier central consacré à Nice la Belle, la ville que l'on aime plus que jamais, énonce Le Parisien dimanche. Et oui, pourquoi Nice? Vous avez entendu cette nouvelle chanson. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs personnes qui ont pris leur guitare, leur piano. Ils sont devenus auteurs, compositeurs. d'un jour, d'un soir, d'un moment, des cris du cœur. Et nous allons recevoir des témoignages tout au long de cette émission. C'est pas terminé, madame, monsieur. Et vous pouvez nous joindre au 416-946-7000 ou encore pot.pourri@sympatico.ca ou via facebook.com/popourrishow. Nous recevons maintenant le président de la Maison d'Haïti du Grand Toronto qui a voulu absolument témoigner, partager, être solidaire avec les Français, le peuple français aujourd'hui. Monsieur Fougère Adolphe, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à toute la communauté.
Oui, alors vous vouliez absolument passer à l'émission aujourd'hui pour partager votre douleur, mais aussi démontrer votre solidarité, la solidarité des Haïtiens, la communauté haïtienne, des membres de la Maison d'Haïti du Grand Toronto face à cette horreur, face à cette tragédie, face aux Français qui sont dans le deuil.
Monsieur Eric, au nom de la Maison d'Haïti du Grand Toronto et de la communauté haïtienne de l'Ontario, je tiens à présenter mes sympathies au peuple français tout d'abord, à la communauté haïtienne, la communauté française vivant en Ontario et particulièrement à nos amis niçois frappés par ce deuil. Et nous pensons que la communauté haïtienne est très sympathique par rapport à ce qui s'est passé en France et nous présentons une fois de plus nos condoléances à tous nos amis et nous espérons que ce qui s'est passé à Nice va sensibiliser toutes les communautés pour qu'il y ait plus d'unité, plus d'amour entre les peuples, entre les communautés pour éviter une telle chose pareille parce que perdre quelqu'un, c'est pas une chose facile. Et alors, nous savons comment la communauté haïtienne a été touchée lors du tremblement de terre, comment ça a été dû comme phénomène naturel. Voir des gens qui sont en train de manifester leur contentement, en train de fêter leur indépendance, ce qui s'est arrivé, c'est grave, c'est douloureux. La communauté haïtienne est très sympathique face aux Niçois et au peuple français.
Où étiez-vous, monsieur Fougère Adolphe, quand vous avez appris cette nouvelle?
J'étais à mon bureau, étant donné que je suis un fanatique des informations, et automatiquement que j'ai vu cette affaire-là, j'ai appelé des amis français que j'ai, et j'ai appelé le consulat, j'ai appelé mes amis un peu partout à travers le monde pour leur dire que nos amis français ont été frappés et la situation est très douloureuse. Et rapidement, je leur ai demandé d'appeler à l'ambassade de France, au consulat de France pour leur présenter leur sympathie parce que nous savons que le peuple français est très proche du peuple haïtien et nous, en tant que représentants de la communauté haïtienne au niveau de l'Ontario, c'était un devoir pour nous de partager nos sympathies avec ces gens, d'appeler nos amis, nos dirigeants pour leur dire le peuple français a été touché, il faut rapidement qu'ils soient intervenus pour apporter leur soutien au peuple français. Mmh. Et franchement, Eric, c'était très douloureux parce que je suivais les événements en direct. Et vous savez, lorsque vous êtes en direct, c'est pas une chose facile. C'était vraiment douloureux. Et nous espérons que cela ne va pas arriver dans n'importe quel endroit du monde, parce que la vie d'une personne, c'est une chose extrêmement précieuse. Et nous avons besoin de ces matières grises qui sont disparues pour faire avancer le monde.
Oui. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment. Il me semble, comme je l'ai dit à d'autres invités, il me semble que ça arrive trop souvent. Je ne veux plus préparer des émissions en hommage aux victimes, que ce soit Orlando, que ce soit Paris, que ce soit Bruxelles. Il me semble que là, ça dépasse les bornes et les limites. Il faut trouver un moyen que ça s'arrête, mais ce qui est très difficile, parce que ces gens-là peuvent être votre voisin, hein? Ils peuvent être n'importe qui.
Bien sûr, et il faut que nous prêchions la paix parce que maintenant, quelque chose vient juste d'arriver aux États-Unis, Minnesota, où 3 policiers viennent d'être tués. Et plus de 7 blessés selon les informations que je viens juste d'avoir.
Ah oui.
Alors là, il faut être prié, il faut être gêné pour sensibiliser toutes les communautés, toutes les couches. Pour éviter que ces actes se reproduisent.
Ça vient de se produire là actuellement, oui?
Oui, à Minnesota, il y a 3 policiers sur les dernières informations qui ont été battus et 7 blessés.
Ah, mon
Dieu. Aux États-Unis. Là, il faut que les directeurs d'opinion continuent à sensibiliser les gens Alors, infringer la paix,
en effet,
le
je
partage,
vois que
l'amour, oui.
Trois policiers
que
de...
ces choses se reproduisent.
Trois policiers de la ville de Baton Rouge, madame, monsieur, vient d'être abattu. Et il y a trois autres personnes qui sont blessées. Et alors, d'ailleurs, il y a eu un jeune noir qui a été abattu par la police il n'y a pas très longtemps, je pense il y a 2 semaines de cela. Alors, il y a une vive tension, on le sait actuellement, entre la police et la communauté noire dans certaines villes du pays. Et voilà, ça se passe en direct. C'est sur CNN et d'autres réseaux sociaux. Et c'est dommage, pendant qu'on rend hommage aux victimes de l'attentat de Nice, on apprend qu'il y a aussi d'autres victimes qui tombent sous les balles des tireurs. Et là, entre autres, en l'occurrence, on parle de 3 policiers à Baton Rouge, en Louisiana. Madame, monsieur, Minnesota, oui?
Minnesota.
C'est parce que ici, moi, je vois Baton Rouge. Hein?
Alors... Oui, c'est à Minnesota, au Baton Rouge, à Minnesota.
Très bien. Alors, écoutez, voilà, c'est ça aussi l'information maintenant en direct. Hein? Et donc, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage et j'espère que nous aurons l'occasion de nous reparler sous d'autres auspices. Et j'espère qu'on ne va pas traverser encore d'autres états de choc de ce genre bientôt.
Nous l'espérons et au nom de la communauté haïtienne, nous vous remercions de nous avoir accordé la possibilité de partager nos sympathies avec le peuple français.
Merci, passez une bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Le rythme et la cadence. Le rythme
RFI
et la cadence.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto. Sound of your city.
Vous écoutez Popourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio.
Émission spéciale en hommage aux victimes de l'attentat de Nice et en partenariat avec Radio France Internationale et plusieurs partenaires correspondants ici à l'étranger. Une émission en partenariat avec Radio France Internationale. Et nous allons recevoir un autre invité qui nous attend dans la région de Montréal. Mais pour l'instant, rapidement, on voit que le Conseil de sécurité de l'ONU a observé un moment de silence vendredi en hommage aux victimes de l'attentat de Nice qui fait, selon un dernier bilan, 84 morts, je vous rappelle. 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU avaient déjà jeudi soir condamné avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste barbare et lâche. L'ambassadeur français auprès des Nations Unies, François Delattre, a dit aux journalistes avant la réunion avoir reçu de nombreux messages de soutien pour la France. Et je cite, nous sommes en état de choc, un choc profond, mais en même temps, le mot-clé, c'est la détermination dans la lutte contre le terrorisme, à la fois au niveau national et international. Aux États-Unis, la réaction a été immédiate, rapporte notre correspondant à Washington, Anna-Marie Capomaccio. Les officiels américains ont exprimé leur solidarité avec Paris. Dans cette entrevue, Barack Obama condamne de la manière la plus ferme ce qui semble être une horrible attaque terroriste sur la France. La Maison-Blanche est en contact constant avec Paris. Washington met à disposition toute aide qui pourrait être utile. Et le secrétaire d'État américain John Kerry, qui avait assisté au défilé du 14 juillet à Paris, plutôt dans la journée, a fait sujet une attaque affreuse contre des personnes innocentes durant un jour qui célèbre la liberté, l'égalité et la fraternité. Et puis, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a de son côté exprimé dès jeudi soir sa solidarité avec les Français. Et je cite, « Les Canadiens sont bouleversés par l'attentat de jeudi soir à Nice. Et sur son compte Twitter, il dit « Notre sympathie va aux victimes et notre solidarité au peuple français ». Et le président brésilien par intérim, Michel Temer, a condamné cette abjecte et outrageante action perpétrée contre des innocents qui célébraient les valeurs universelles les plus élevées, la liberté des peuples, l'égalité entre les citoyens et la fraternité. Enfin, il y a eu plusieurs appels comme ça, des témoignages à travers le monde et surtout des chefs d'État à travers la planète.
Où sont les vrais? Parlez-moi noter. Je veux savoir ce qu'il faut faire pour qu'on ait de la vérité. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas vu ce qui s'est passé? Isolez-moi, je dormais. Et je n'ai pas pu rêver. Des familles en perte de sommeil. Terroriste à frapper. Promène à des Anglais. Un décor inanimé. Qu'est-ce que nous on peut faire? Quand même le corps devient une âme. Qu'a-t-il fait pour perdre son âme? Moi je n'y arrive plus, je n'arrive plus à pleurer. Es-tu encore bien fou?
Émission spéciale en hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Une émission en partenariat avec Radio France Internationale, plusieurs partenaires ici, Montréal et à l'étranger. Pour nous joindre, 86 946 7000 ou encore via facebook.com/popourichaud. À la sortie d'une réunion à l'Élysée hier, samedi 16 juillet, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a évoqué un attentat de type nouveau qui montre l'extrême difficulté de la lutte antiterroriste. Deux jours après l'attentat ou l'attaque de Nice qui a fait, je vous rappelle, 84 morts. Et pour continuer ce dialogue, pour continuer cette émission en guise de solidarité avec le peuple français, la France, nous recevons Monsieur Yann Chantrel, conseiller consulaire de Montréal, Moncton, Halifax et conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger pour le Canada. Bonjour Monsieur Chantrel.
Oui, bonjour.
Il me semble qu'on s'est parlé il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas?
Oui, on s'est parlé il y a une semaine. J'étais en visite, justement, j'étais en déplacement à Toronto pour les festivités du 14 juillet. C'était pour un moment beaucoup plus sympathique, on va dire, de célébration. Et on se retrouve dans, malheureusement, à nouveau, dans un moment de tristesse et de peine très fort.
Tout d'abord, nos condoléances. Et où étiez-vous jeudi soir quand vous avez appris la nouvelle?
Alors en fait, j'étais justement au Musée des Beaux-Arts à l'occasion de la célébration de la fête nationale française du 14 juillet. Et donc, on l'a appris au tout début des célébrations, finalement, de la bouche du maire de Montréal et de la consule de France à Montréal. Donc, on était un peu, comme souvent dans ces moments-là, au début, on est un peu dans l'expectative. On ne souhaite pas trop y croire. On espère même ne pas bien avoir entendu, mais on se rend compte au fur et à mesure de la soirée, effectivement, de l'ampleur du drame et de cette attaque. Et donc, évidemment, les festivités ont été chamboulées malgré cette énorme tristesse que nous avons. Nous avons décidé, comme vous savez, dans ces moments-là, de resserrer les liens on a vraiment encore plus le besoin de se retrouver ensemble. J'ai vu à l'occasion des festivités qui étaient organisées aussi à l'Union française à Montréal, des personnes qui étaient venues spécialement, qui n'avaient pas forcément prévu de célébrer le 14 juillet, mais qui se sont déplacés spécialement pour par nécessité de se retrouver après cet attentat terrible, horrible.
Et la réaction des Français de la région de Montréal, quel est leur état d'âme en ce moment?
Bah, vous savez, en général, quand il y a ce type d'événement, et malheureusement, ça n'est pas le premier, les choses sont beaucoup démultipliées quand on est à 6000 km de son pays d'origine. Vous avez souvent encore de la famille, des amis qui sont sur place. Donc tout est démultiplié au niveau émotionnel, hein. C'est-à-dire que vous vous sentez loin, vous avez besoin d'être avec vos proches dans ces moments-là. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous sentir finalement humain, hein, parce que le but de ces actes horribles sont de nous enlever notre humanité finalement. Mmh. Et je pense qu'on a besoin de montrer que justement nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin de nous retrouver avec nos proches. Donc c'est souvent démultiplié, donc je reçois souvent beaucoup de messages, et je dirais même pas que des messages de Français, vous savez, vous avez un représentant de la communauté haïtienne dont je salue d'ailleurs son message qui nous touche beaucoup. Et il faut savoir que des messages, on en a de toutes les nationalités, c'est pas que des Français, de solidarité, des messages de compassion, ils viennent dans les rassemblements, ce ne sont pas que des Français qui sont là. C'est ça aussi le message qui est important à envoyer, c'est la solidarité au niveau international entre les peuples.
Il y a aussi de la solidarité, mais j'ai vu aussi, on en a parlé dans certains médias, un certain dérapage dans les réseaux sociaux où les gens ont exprimé leur colère. Et tout ça, c'est un peu émouvant. C'est la réaction du moment. C'est tout à fait normal. C'est humain, hein, d'être en colère.
Oh, oui.
Vous êtes avec moi en direct de Montréal. Vous allez ensemble co-animer cette émission pour le reste du temps. Et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, on est en guerre. La France est en guerre. Et c'est très difficile de lutter contre ce genre de terrorisme, parce que là, ça a pris d'autres mesures. Personne ne s'y attendait que ce type allait louer un camion et que ce camion allait faire tant de dégâts, parce qu'on est tellement habitué avec des bombes, des kalachnikovs, n'est-ce pas? Et nous avons un spécialiste qui a été interviewé par nos confrères de Radio France Internationale. Il s'appelle Pierre Conessa. Et il est spécialiste des questions stratégiques internationales et en terrorisme. Je vais vous demander de rester avec moi, d'écouter une brève allocution, et puis nous allons ensemble réagir sur ce qu'il nous dit. D'accord? Ne partez pas. Alors, et voici Madame, Monsieur Pierre Conessa, spécialiste des questions stratégiques internationales, qui était à l'antenne de RFI.
Comment voulez-vous, en mettant des hommes, même armés de balles pour des tirs réels, si vous voulez, empêcher un engin de cette taille lancé sur une concentration de foule? Quand vous pensez au nombre de festivals qui se passent en France pendant l'été, vous vous dites que de toute façon, il est toujours possible de faire un attentat terroriste dans un endroit où il n'y aura pas de forces de sécurité. Donc, je crois que ça donne effectivement l'idée que la France est un pays très particulièrement ciblé. Donc, il faut se demander pourquoi la France est ciblée à ce point-là. Mais je vous rappelle quand même qu'il y avait eu dans le temps une tentative d'attentat sur le marché de Noël à Strasbourg. Donc, on est exactement dans la même symbolique, hein, la fête de Noël, de grands rassemblements, et puis dans une ville qui est une capitale européenne. Donc on a déjà eu ce genre de conjonction de phénomènes pour donner un impact médiatique le plus fort à l'attentat terroriste. Donc on aura de toute façon dans d'autres endroits, et ça peut être à Bordeaux, ça peut être à Toulouse, ça peut être n'importe où, si vous voulez, à l'occasion de grands rassemblements, ce genre de posture, il n'est pas possible d'empêcher l'attentat terroriste. Le terrorisme a toujours un coup d'avance puisqu'il choisit l'endroit le moins protégé et qui lui garantit le meilleur impact médiatique.
Et voilà, c'est quand même assez étonnant hein, ce qu'il nous dit.
Oui, mais c'est malheureusement avec raison parce que le problème aussi, c'est qu'il a tout à fait raison. À moins de mettre un policier et encore derrière chaque individu, on est dans démocratie où on a des libertés individuelles et des libertés dans les démocraties. Et effectivement, arrêter quand il y a à moins d'interdire tout rassemblement. Et encore, ça fonctionne pas. Comme vous avez vu, il y a eu beaucoup de rassemblements lors de l'Euro et les choses se sont bien passées. Donc c'est très difficile de prévenir une personne en plus qui s'est radicalisée a priori de manière assez très très tardive dans un laps de temps très court. Il y a des personnes qui s'interrogent au-delà du simple fait que cette personne a fait un acte terroriste. Ça doit nous interroger, et ce que disait très bien cet expert, je pense, au-delà des mesures sécuritaires nécessaires, mais avec réserve aussi de ne pas revenir sur des libertés individuelles, puisque les terroristes, c'est aussi leur but, hein, c'est de terroriser et de restreindre nos libertés. Et il ne faut absolument pas rentrer dans leur jeu, parce que la sécurité garantie à 100%, ça n'existe même pas dans une dictature, ça n'existe nulle part. Il faut en avoir conscience. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, et ça a été très bien dit, beaucoup d'actes terroristes ont été déjoués. On en parle souvent peu, parce que heureusement, ils n'ont pas eu lieu. Il y a des personnes qui ont été arrêtées, des actes qui ont été déjoués. Donc, il y a un travail qui est fait.
On dit même que pendant l'euro, il y a eu des actes de terrorisme qui ont été déjoués, justement.
Absolument. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'en appelle aussi à la responsabilité. Vous avez dit que des personnes ont et c'est tout à fait légitime que les personnes en réaction puissent avoir des réactions sont été touchées, donc ont des réactions un peu extrêmes, bon, même si je les condamne, parce que je pense qu'elles font le jeu des théoriques. Mais à partir du moment où on est un responsable politique, on se doit d'être responsable. Et là, ce que j'ai constaté malheureusement, c'est qu'il y a une part des responsables politiques de l'opposition qui sont des irresponsables à vouloir récupérer des événements aussi tragiques à des fins politiciennes, et je pense que ça, c'est aussi condamnable. Et quand on est un responsable politique comme moi, il faut aussi le dire, parce qu'on ne peut pas tout se permettre, on ne peut pas tout se permettre en politique. Je pense qu'il y a un minimum de décence à avoir quand il y a des événements de ce type-là, et je pense que récupérer des événements pareils, c'est odieux et c'est une insulte à la mémoire des victimes. C'est pour ça que moi, je tenais aussi à le dire, parce que c'est quelque chose aussi qui m'est revenu également de la part de beaucoup de compatriotes quand ils sont à l'étranger. C'est le manque, finalement, de responsabilité de la part de certains responsables de politique par rapport à ça. Donc, je pense que c'est important aussi de le signaler. Et puis, combattre le terrorisme. Vous savez, la France a déjà été confrontée, malheureusement. Et puis, ce n'est pas que la France face au terrorisme. On l'a déjà vaincu. J'ai pas doute qu'on le vaincra. Le problème, c'est que ça prend du temps. Ça prend des mesures, effectivement, de sécurité. Ça prend un travail sur le terrain militaire aussi, qui fait la France est engagée dans une coalition. Et à ce que je sache, l'État islamique n'est pas en train de gagner loin de là sur le terrain, justement. Ils sont à la limite d'être à bout de souffle. Donc, ils ont des dégâts terribles sur le terrain. C'est pour ça aussi qu'ils essayent de faire en sorte de créer la terreur pour qu'on se retire au niveau militaire. Donc il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Je pense qu'il faut surtout qu'on soit soudés et unis. Sinon, on ne peut pas combattre un adversaire si on est désunis, puisque c'est le but.
Alors il y a des élections présidentielles qui s'annoncent l'année prochaine en France. Vous avez parlé de récupération politique. On le sait, pour les gens qui veulent aller plus loin, fouiller sur les journaux, sur Internet, il y a toute une polémique actuellement entre l'opposition et le gouvernement français en ce moment. Mais beaucoup de vos concitoyens, M. Chantrel, appellent carrément à l'instauration de l'état d'urgence permanent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Non, je suis absolument opposé avec ça. Je pense que l'état d'urgence, comme son nom l'indique, c'est dans une situation d'urgence. Ça n'a pas vocation à être permanent. Je suis très réservé par rapport à ça, parce que, comme vous le savez, nous sommes déjà en état d'urgence, et ça n'empêche pas à des déséquilibrés ou à des fanatiques de pouvoir perpétrer leurs actes terroristes. Je pense que nous sommes dans un état de droit. C'est important de le réaffirmer également. Et je pense que, justement, ça serait faire le jeu des terroristes que d'être dans un état d'urgence permanent. Il y a des mesures de sécurité qui sont prises, elles sont maximales. On peut toujours faire mieux. Il faut toujours bien évidemment prendre en compte les événements qui ont été commis, les actes terribles qui ont été commis, pour justement essayer de que ça ne se reproduise pas. C'est ce qui est fait. Il y a un travail important qui est fait à ce niveau-là. Mais évidemment, comme je vous ai dit, c'est horrible. Il faut continuer à le combattre. Mais ce que je dirais, c'est que si on veut faire une politique de long terme et de combattre le terrorisme, ne nous arrêtons pas à ces mesures sécuritaires qui peuvent répondre à l'urgence, qui est nécessaire. Il faut y répondre dans l'urgence. Et si on veut vraiment combattre le terreau du terrorisme, c'est sur des politiques de long terme, en termes d'éducation, en termes d'intégration, dans un grand nombre de domaines. Si on agit uniquement en surface, en répondant sur l'immédiateté avec des politiques sécuritaires, nous ne ferons que les renforcer, mais nous ne lutterons pas contre les racines du mal.
Je regardais une émission ce matin sur la BBC, ou hier, je ne me souviens pas. On parle aussi d'un travail de terrain en profondeur que les gouvernements français, les responsables des villes, des banlieues doivent travailler, trouver des solutions. Comme on avait fait ici dans les années 90, je ne sais pas si vous étiez au Canada à cette époque, mais il y avait un soulèvement, des attentats de la part des jeunes noirs qui criaient racisme et qui se sentaient exclus. Finalement, il y a eu une commission d'enquête. Il y a un rapport qui a été pondu par l'ex-ambassadeur du Canada aux États-Unis, Stephen Lewis, et ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact et d'écho dans d'autres villes canadiennes pour justement contrer ces jeunes qui se sentent exclus et qui commettent des actes terribles et horribles. Et on se demande si la France ne devrait pas peut-être revoir un peu sa politique au niveau de l'immigration, au niveau de l'intégration. Parce que là, on parle de gens qui sont nés en France des fois. Regarde à Bruxelles, par exemple, ou en Belgique, toutes ces cellules de jeunes djihadistes ou bien des jeunes qui se sont embrigadés, ils vivaient en Belgique depuis très longtemps. Il y en a même qui sont nés en Belgique, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est très difficile de contrer, parce que comment faire pour détecter ces gens qui sont tombés dans l'extrémisme?
Oui, absolument. Vous avez entièrement raison. Je pense qu'il faut développer des politiques déjà à un échelon plus rapproché, voilà, plus local, pour favoriser le vivre ensemble. Parce qu'effectivement, les gens ne se parlent plus, ne font plus des choses ensemble, ont peur l'un de l'autre parce qu'ils ne se connaissent pas. Il faut retravailler, et ça prend vraiment des politiques au plus près du terrain, des politiques locales. Vous l'avez très bien dit, comme ce qui est, par exemple, le maire de Montréal. Je sais qu'il est très, très, très intéressé sur toutes les questions. Il travaille beaucoup sur les questions du vivre ensemble. Je pense que c'est très important, et c'est à l'échelon local, à travers des politiques locales, qu'on peut favoriser l'éducation, la culture, le vivre ensemble est plus que jamais nécessaire. À partir du moment où les gens sont isolés, automatiquement, les gens sont rejetés de la société, il y aura un risque qu'ils soient radicalisés. Voilà. Il faut le prévenir. La meilleure lutte contre le terrorisme, c'est la prévention de la radicalisation, voilà, c'est de prévenir. Et là, on luttera réellement contre le terrorisme, si on prend ces mesures-là.
Encore une fois, malheureusement, le temps passe, mais nous aurons l'occasion de continuer ce dialogue, j'espère, sous d'autres auspices, parce que là, ça fait un peu trop pour moi, pour nous, pour tout le monde, pour les Français aussi. Et encore une fois, nos condoléances, et puis vous avez tout notre appui, notre soutien. Nous sommes solidaires avec vous et vos amis français de la région de Montréal et les régions que vous représentez au Canada, et ainsi qu'au peuple français. Monsieur Yann Chantrel, merci mille fois d'avoir été des nôtres aujourd'hui, et c'est avec vous que nous allons conclure cette émission. Hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Je vous rappelle que M. Chantrel est conseiller consulaire de Montréal, Moncton, Halifax, et conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger pour le Canada. Une fois de plus, M. Chantrel, un grand merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était une émission spéciale en hommage aux victimes de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Nous remercions les invités qui étaient à cette émission spéciale et tous ceux et celles qui nous ont envoyé des messages sur Internet. Madame Francine Watkins, nous remercions Monsieur Michael Pilater, Monsieur Yann Chantrel, Monsieur Pierre Conessa et Monsieur Fougère Adolphe. Ici Eric Kader, au nom de toute l'équipe, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une émission régulière. Que la paix, la force de la paix soit avec vous. Une